Vous êtes sur RTL.
Moi. RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h21, c'est un débat très important que nous allons avoir maintenant parce qu'il conditionne tout simplement la vie du pays, des familles et des enfants dans les jours et les semaines à venir. Bonjour Hubert Salin.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la PEP, je rappelle qu'il s'agit de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public et bienvenue aussi à Benoît Test.
Bonjour.
Porte-parole et secrétaire général de la FSU, le syndicat d'enseignants. Vous êtes vous-même professeur d'histoire. Vous a-t-on expliqué et savez-vous ce qui a finalement déclenché cette décision au bout du compte de fermer nos écoles dès lundi, Hubert Salin?
Alors nous, on n'est pas là pour regarder si la décision a été, pourquoi on l'a prise, on est là pour respecter les décisions. Il ne s'agit pas de contester, de dire on aurait dû faire comme ceci, comme cela. Les décisions s'imposent, voilà, maintenant la décision s'est imposée. Ce qu'il faut, c'est voir comment on va fonctionner dans l'intérêt des élèves.
Est-ce que vous attendiez à pareille situation?
Écoutez, moi je suis dans l'Oise. Donc dans l'Oise, on a connu ça il y a une semaine. On a commencé par 8 zones cluster, 8 communes. On est passé à tout le département.
Donc ce qu'on appelle les zones cluster sont les foyers d'épidémie.
Les foyers, voilà. Oui. On sait, on a rencontré on rencontre le DAZEN, on rencontre la rectrice. Et le soir même, d'un seul coup, tout peut changer. Donc dans la communication, on nous dit que c'est comme ça. Mais les décisions s'imposent et on n'est pas là pour les discuter. Mais par contre, on est là pour voir comment fonctionner.
Bon, et vous êtes sur la même ligne, si je puis dire?
Oui, bien sûr, les décisions s'imposent. Après, nous, cette décision, on l'a saluée comme une décision de bon sens, parce que c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas forcément ce soir-là, enfin hier soir. Malgré tout, les inquiétudes montaient, et notamment en lien avec le fait que dans les écoles, dans les établissements scolaires, le virus circule particulièrement, et donc tous les problèmes que ça pose pour l'ensemble de la population, les familles, les élèves bien entendu, mais aussi les personnels qui sont en face.
Bien sûr.
Et donc il y avait énormément d'interrogations sur cette décision-là.
Alors, je reste avec vous qui êtes enseignant. Une fois, j'ai envie de vous dire, l'illusion de vacances à rallonge envolée, parce qu'il ne fait pas de doute que le président le plus populaire de la 5e République chez les moins de 12 ans va devenir Emmanuel Macron en quelques jours. Les élèves et leurs parents découvrent que les enseignements se poursuivront, dixit, sous une forme différente. Qu'est-ce que ça veut dire et comment faire de l'enseignement à distance? Et est-ce que ça reste de l'enseignement?
Alors, ça reste de l'enseignement.
On pourrait imaginer des révisions à domicile, vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, alors ça va être un mix quand même de pas mal de choses, parce qu'effectivement, la grande question, c'est comment assurer la continuité du service public et la continuité pédagogique. C'est vrai que c'est des questions qui ne sont pas simples. On est confronté à une situation de crise et donc les personnels vont être contraints de s'adapter en disant bien effectivement aux élèves qu'il ne s'agit pas d'une période de vacances. Ce serait extrêmement problématique parce qu'effectivement, il faut garder ce lien avec l'école. Et on est très inquiet en particulier pour les élèves les plus éloignés de l'école, ceux qu'il va falloir raccrocher aux enseignements. Et donc, comment ça va s'organiser? Ça, c'est toute la question. Est-ce qu'on...
Au minimum 15 jours, vient de préciser le ministre de la Santé.
Voilà, c'est donc sur une période relativement longue que ça risque de s'installer, qu'il va falloir installer des choses et sur lesquelles on a quand même peu de consignes claires. Et du coup, on a des dilemmes. Par exemple, est-ce qu'il faut approfondir les parties de programme qu'on a faites d'ores et déjà dans l'année? Parce qu'on sait que le numérique, ça permet souvent les approfondissements. C'est beaucoup plus compliqué à distance de faire des nouveaux chapitres, de faire des nouveaux programmes. Et donc, est-ce qu'on axe sur l'un ou sur l'autre? Évidemment qu'on va faire les deux, en gros. Mais comment on s'y prend exactement?
Quel est votre avis en tant que fédération de parents d'élèves?
Alors moi, je peux parler de ce que je vois au niveau de l'Oise, c'est-à-dire que les élèves actuellement ont surtout, il y a une continuité de travail, de devoirs, mais pas forcément une continuité pédagogique, parce qu'on est les premiers à dire que la présence de l'enseignant face à face de l'élève, c'est quand même là que se passent les choses.
Ah oui.
Voilà. Donc aujourd'hui, on voit des charges de travail très importantes pour les élèves, parce que les enseignants cherchent aussi à occuper le vide, à donner du travail aux élèves. Les élèves vivent sous la pression. Les enseignants, au bout d'une semaine, je le sais, il y en a pour qui c'est très difficile, parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, tellement ils ont de devoirs à corriger, tellement ils ont de choses à faire. Ils sont inquiets par les élèves qui n'arrivent pas à contacter. Donc, et souvent, ils ont du mal à travailler ensemble parce que les enseignants ont besoin de travailler collectivement.
Et est-ce que les familles que vous représentez sont prêtes à ouvrir un ordinateur et à faire du fonctionnement qui relèverait pour les parents du télétravail, mais qui là, et en fait, l'apprentissage des études de leurs enfants? Ça fait peur ou est-ce que c'est quelque chose qui psychologiquement semble pouvoir passer? J'ai même vous dire techniquement, parce qu'il y a un moment où il faut quand même engager le biniou.
Alors, chacun le fait par rapport à sa propre histoire, ses propres possibilités d'équipement. Voilà, une mère, par exemple, me disait hier, elle est elle-même enseignante. Ouais. Il faut qu'elle fasse classe à ses élèves. Elle a 3 enfants qui, chacun, sont dans des classes différentes. Tout le monde doit faire des classes virtuelles. C'est très compliqué. Il y a un ordinateur. Et voilà, donc c'est compliqué. Chacun vient avec sa propre histoire. Il y a des gens, des professeurs comme des parents qui sont déjà initiés, qui savent déjà faire des choses à ce niveau-là. D'autres pour qui c'est plus difficile.
Je veux pas te faire de misérabilisme, mais il y a encore des familles où il n'y a pas d'ordinateur ni l'accès à Internet. Hein.
Oui, ça c'est certain. Et alors, on a entendu le ministre dire qu'il y avait 5% des élèves qui étaient dans cette situation. Il lance un appel au niveau des mairies, mais on sait bien que les mairies, dans cette période, ça va être compliqué pour elles de réagir. Mais il faut vraiment mettre le maximum sur ces élèves-là, qui, eux, vont payer cher la crise. Les élèves qui sont en réussite, ils le seront toujours, on ne va pas s'inquiéter pour eux.
Vous qui êtes enseignant, Benoît Hattès, vous imaginez qu'on puisse mettre 12 millions d'élèves sur un serveur
C'est ça qui est compliqué.
Déjà post-bac, on n'y arrive pas.
Exactement. Non, mais c'est ça. Le numérique, c'est ce que vous disiez à l'instant. Ça suppose déjà l'autonomie. Ouais. Du coup, ça favorise ceux qui sont déjà autonomes au détriment des autres, qu'il va falloir aller chercher. Et là, c'est chronophage. C'est ce que vous expliquiez aussi. C'est-à-dire, il va falloir relancer les élèves qui n'ont pas éventuellement fait le travail, fait les exercices demandés. Donc, effectivement, il ne faut pas promettre des choses qui ne vont pas être tenables. En fait, c'est un peu ça qu'on reproche quand même au discours de Jean-Michel Blanquer aujourd'hui, qui nous dit tout est prêt, tout va bien, il y a des plateformes numériques qui fonctionnent et il y a des habitudes qui ont été prises par les enseignants. Oui, il y a des choses qui se passent déjà et heureusement, et on va tout faire pour mettre en œuvre le plus de choses possible, mais ça ne remplacera pas les cours, et donc ça va être évidemment compliqué.
Mais pendant cette période, vous, en tant que professeur d'histoire-géographie, est-ce que vous avez accès à votre établissement, par exemple ?
Alors ça, c'est la grande question aussi. Est-ce que école fermée, dans les annonces d'hier de Macron, ça veut dire accès des élèves interdits ou supprimés ?
J'ai tendance à penser que la salle des profs reste ouverte, voyez-vous, mais j'en
voilà,
sais rien.
Voilà, mais écoutez, par exemple, il y a des conseils de classe qui doivent se tenir encore là. Est-ce que les conseils de classe se tiennent ? Moi, j'ai tendance à dire... probablement ou peut-être, mais il y a des consignes contradictoires. Il y a des chefs d'établissement qui ferment complètement. Il y a des chefs d'établissement qui, au contraire, disent et obligent les enseignants à venir sur leurs horaires habituels de cours, ce qui est un peu absurde aussi à l'inverse.
Oui.
Voilà, on a un peu tout qui se fait et c'est là qu'on a besoin de consignes claires parce qu'effectivement, pour l'instant, il y a quand même du flou.
Dans ce cas-là, ça vient quoi ? Du rectorat ? De l'inspection ?
Ça devrait venir du ministère. Hein, je pense d'avoir une consigne un peu nationale sur est-ce que ce sont les élèves uniquement qui ne doivent pas venir. Est-ce qu'on continue conseil de classe, réunion d'équipe pédagogique est-ce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau de l'établissement ?
Hubert Salin, en ce moment, est-ce que vous êtes en contact avec les différents établissements de votre département ? Comment ça se passe ? Enfin, ou est-ce que, je dirais, vous venez juste de subir l'annonce présidentielle ?
En une semaine et presque 2 semaines pour les secteurs de Creil, de Crépy-en-Valois. Donc on voit, il y a des établissements qui effectivement ont été fermés. Il y a parfois eu des consignes d'inspecteurs de circonscription qui ont demandé à ce que les enseignants ne pénètrent pas dans leur école.
Donc vous avez déjà l'expérience de ce qui est en train d'être mis en place.
Alors que même que les outils dont ils ont besoin pour travailler sont dans leurs écoles. Donc nous, on a demandé à ce que les choses soient éclairées. Effectivement, les enseignants, pour nous, doivent pouvoir se retrouver dans leurs établissements, pas en permanence, mais à certains moments pour travailler. De la même façon que les boulangers sont levés à 3h du matin pour faire du pain, que les commerces vont être ouverts, que les taxis sont là. Donc il n'y a pas de danger particulier pour les enseignants, à condition de respecter les règles d'hygiène, de sécurité, de prendre une certaine distance entre soi. Mais ça, tout le monde l'a compris.
Alors, il y a une question qui a été soulevée, elle est délicate, mais par certains médecins. C'est de dire, c'est très bien de fermer nos écoles, mais il se trouve que pour la plupart des parents, ce sont les grands-parents qui viendront garder les enfants, et c'est potentiellement une bombe à retardement, tout simplement parce qu'on sait que les mômes peuvent être porteurs du virus et eux s'en porter très bien, et contaminer leurs grands-parents qui, eux, seront beaucoup plus fragiles. Est-ce que ces questions vous ont été posées ?
Oui, ces questions nous sont posées, mais alors, il y a des grands-parents qui ont 50 ans, 55 ans, ils ne sont pas dans la même menace que les grands-parents, les arrière-grands-parents qui ont 85 ans. Voilà, donc là aussi, il faut faire preuve de raison, il faut se dire, et pratiquer plein de micro-solidarités qui permettent de garder les enfants les amis, de garder les enfants, de s'arranger, chacun son tour. C'est dans ces moments-là qu'on va voir un peu ce qu'il y a de mieux chez les enseignants et chez les parents. Donc...
En tout cas, je constate que vous semblez l'un et l'autre assez serein ce matin. Vous m'autorisez à dire ça, en dépit des difficultés qui viennent devant vous.
On a quand même pas mal d'inquiétudes et on demande des cadrages importants et on demande effectivement à ce qu'il y ait des consignes claires pour vraiment assurer les choses.
Donc les profs aiment bien être cadrés. Hein.
Ben, oui, parce que quand on n'est pas cadré, ça donne un peu n'importe quoi d'expérience. On sait que les uns et les autres faisant des choses différentes et ayant plein de bonnes idées localement, ça engendre très vite du bazar.
Je vous mets 16 sur 20 tous les deux. Merci Hubert Salin, merci Paul Wattest. Très bonne journée à tous les deux.
Merci.
L'actualité vous concerne. Venez en débattre au 3210 sur RTL.
50 centimes la minute.
Et dans un instant, soir.